Bonjour à tous. Alors, on attend une minute que deux, trois personnes se connectent et je pense qu'on peut se lancer pour essayer d'entrer dans l'heure, vu que la double matérialité, c'est un énorme sujet. Je pense qu'on a plein de choses à vous raconter. Je pense qu'on peut commencer si Marie, ça te convient. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de vous être connectés pour ce webinaire qu'on organise aussi aujourd'hui avec le FIR, le Forum pour l'investissement responsable. Le webinaire aujourd'hui traite du sujet de la double matérialité, qui est un des exercices clés de la CSRD, la nouvelle directive de reporting de durabilité, dont certaines sont amenées à préparer pour l'année et à publier un premier rapport dès 2025. L'objectif en fait de ce webinaire, c'est de vous faire un retour d'expérience sur les apprentissages qu'on a pu faire sur différents exercices de double matérialité dans différents secteurs, pour partager un petit peu nos surprises, les challenges aussi, les enjeux face à la double matérialité. C'est aussi un exercice nouveau où on se pose encore plein de questions. Donc on est sur un objectif, plutôt une logique d'amélioration continue. Le Marie, donc qui représente le Forum pour l'investissement responsable, pourra aussi partager des retours de ses membres. Et ce qu'on vous propose à la fin, c'est terminé par un petit deep dive méthodologique sur un petit peu les étapes clés d'une double matérialité pour ceux qui doivent s'emparer du sujet, se projeter un petit peu dans la démarche. Donc peut-être avant de me lancer dans le webinaire, quelques petites instructions sur le webinaire. Donc on vous a tous automatiquement mis en sourdine. N'hésitez pas à utiliser la fonction chat pour poser des questions, enfin faire des commentaires sur le webinaire. Et nous, on essaie de les regarder tout au long de la séance et soit y répondre directement par chat, soit en répondre à l'oral dans la phase de questions-réponses qui sera à la toute fin du webinaire. On a également automatiquement mis votre caméra off, mais vous êtes bien évidemment invité à la remettre si vous le souhaitez. C'était juste pour essayer d'économiser la bande passante et pour un effort de ne pas trop pas trop d'avoir empreinte carbone. Vous avez la liste des participants qui est di directement disponible soit ici, soit sur LinkedIn. Il faut savoir qu'un replay pardon, de ce webinaire sera disponible sur le site de XAPA d'ici à une semaine après le webinaire avec la présentation qu'on vous partage. Et si vous avez le temps, sur les 5 dernières minutes de ce webinaire, il y aura un petit sondage qui va s'afficher pour un petit peu avoir votre retour, votre feedback sur le webinaire. Si vous avez quelques secondes pour y répondre, il n'y a rien à écrire, il y a juste à sélectionner des niveaux de satisfaction, ça serait super. Je vous ai déjà présenté l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc je ne vais pas repasser dessus. Peut-être que dans les premières minutes, je prendrai le temps aussi de vous présenter XAPA avant de rentrer dans les détails de la CSRD et du partage d'expérience avec Marie. Alors, XAPA, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bah, bienvenue déjà. Nous sommes une entreprise à mission. Une jeune entreprise à mission qui est née en 2019. On se représente notamment, on a plusieurs de nos activités, dont une qui est de faire de la participation au débat public, et c'est vraiment le cœur de notre webinaire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise à mission et de par l'ensemble de nos activités que nous faisons, nous avons vocation à partager avec le grand public nos apprentissages, nos rapports d'étonnement. Nous ne sommes pas une association, donc je n'ai pas envie de parler de plaidoyer, mais du coup, on a un blog sur lequel on est très actif, où on parle de tout sujet autour de la durabilité, que ce soit de la conformité, mais aussi d'autres natures de sujets autour des problématiques de droits humains. On organise des webinaires en français et en anglais. Celui d'aujourd'hui est en français vraiment pour parler des sujets de CSRD qui animent les entreprises françaises que vous, pour que certains d'entre vous représentent aujourd'hui. Et on a aussi ce qu'on appelle des notes méthodologiques, des publications qui vont un petit peu plus dans le détail sur certains sujets. Ou typiquement, Farid, si tu vas à deux slides après, on a pas mal de contenu autour de la double matérialité et de la CSRD. Donc, on vous renverra les liens évidemment juste après, mais en tout cas, voilà le type de contenu que l'on publie dans le cadre de notre activité de participation au débat public. Pour pouvoir justement vous partager ce contenu, XAPA est un cabinet de conseil en durabilité, entre autres, qui accompagne les sujets sur un grand nombre de problématiques autour du développement durable. Les trois sujets qui nous animent aujourd'hui, c'est vraiment, alors, j'ai pas envie de parler de conformité, mais la durabilité soumise à la réglementation européenne, donc que ce soit la CSRD, que ce soit la CS3D, le devoir de vigilance français qui se traduit à niveau européen, que ce soit la EUDR sur la déforestation, c'est des sujets qui nous animent beaucoup aujourd'hui. XAPA n'est pas un cabinet d'ingénieurs environnementaux, d'ingénierie environnementale. On accompagne bien évidemment des entreprises sur des stratégies net zéro, mais notre cœur de sujet, c'est aussi le social et les droits humains et la finance durable qui sont représentés par nos deux cofondateurs, Raphaël Ara et Farid Badache. En plus de cette activité de conseil, on a toute une activité de programme et d'investissement au service de la résilience de chaînes de valeur et de commodités agricoles. C'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais c'est tout un autre pan d'activité que vous pouvez découvrir sur notre site web. On est une équipe basée à Paris. D'environ une quinzaine de personnes aujourd'hui, avec en plus ce qu'on appelle, nous, notre communauté d'experts, qui est composée d'environ 150 personnes et organisations de taille similaire aux nôtres, qui sont nos partenaires, qui travaillent avec nous, soit on travaille conjointement sur du projet, et qui nous permettent vraiment de proposer à des clients des solutions globales sur un ensemble de géographies, sur des sujets plurisectoriels, ou sur des thématiques très précises, ou si malheureusement en interne on n'a pas, ou la compétence n'est pas disponible, eh bien on peut s'activer sur ce réseau-là. Donc on travaille vraiment de manière collaborative avec un ensemble de partenaires dans le monde entier. On peut passer à la partie CSRD d'aujourd'hui. Le premier point sur la CSRD, c'est d'abord rappelons rapidement les évolutions principales de la CSRD par rapport à la NFRD. Donc c'est un petit peu jargonneux, si je prends un petit peu de recul, la NFRD, c'était la Non-Financial Reporting Directive qui existait avant la CSRD, qui pour vous, entreprises françaises, en fait, s'est traduite par la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, qui est un petit peu en Europe un best in class en termes de reporting de durabilité. Il faut savoir que la DPEF et la France est le seul pays à avoir voulu auditer les comptes extra-financiers, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui n'était pas obligatoire dans d'autres pays européens. Donc, quelles sont les évolutions clés entre la CSRD et la NFRD? C'est ce qu'on a essayé de vous représenter ici. Le premier point, c'est l'harmonisation. L'harmonisation de l'information, l'harmonisation dans la manière où on a fait notre exercice de priorisation. La DPEF donnait un ensemble de thématiques sur lesquelles une entreprise pouvait ou non se positionner et partager l'information qui lui semblait la plus pertinente. La CSRD requiert à ce que, à travers d'une méthodologie concertée, la double matérialité, et c'est le cœur du sujet aujourd'hui, on sache justifier le contenu d'un rapport CSRD. C'est-à-dire qui est basé sur un minimum de standards, les ESRS, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et selon si un sujet est considéré comme matériel pour une entreprise, des points de données sont déjà partagés par les FRAG. Donc je pense que c'est le fichier Excel que vous connaissez, avec environ 80 obligations et environ 1200 points de données d'information. Donc on part sur des standards de reporting uniformes qui vont permettre de comparer la performance d'une entreprise à une autre sur une base transparente. Transparente parce que l'idée n'est pas d'omettre de l'information si on ne l'a pas. L'idée est simplement de dire qu'on n'a pas l'information, mais que potentiellement on s'engage à la diffuser à partir d'une certaine date. Un gros caractère innovant de la CSRD, c'est le périmètre de reporting, qui auparavant sur la DPEF se faisait exclusivement sur le reporting d'opérations, le périmètre d'opérations directes, similaire à en fait le périmètre de l'EFRAG sur des données de comptabilité. Là, on demande aux entreprises de se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur l'amont et sur l'aval, et d'être dans des logiques prospectives de performance, de durabilité. Pas de grosses craintes à avoir. Quand on parle de chaîne de valeur, vous avez du temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, pour les entreprises qui vont être éligibles dès 2025 ou dès 2026 à publier un rapport de durabilité, l'attention sera principalement portée sur les 3 à 5 premières années sur les opérations directes. Vous avez tout à fait le temps de vous organiser sur la publication d'informations autour de la chaîne de valeur, d'autant plus que l'information, est moins numérique et laisse plus de place à l'interprétation. Sur les chaînes de valeur que sur les opérations directes. Les 2 derniers mois qui sont importants, mais plutôt d'un point de vue un petit peu macro, c'est l'audit. Alors, ce n'est pas une nouveauté pour les entreprises françaises, mais maintenant, la directive européenne requiert à ce que les informations extra-financières soient auditées par un commissaire aux comptes. Donc, ça sera le cas pour l'ensemble des entreprises européennes. Et enfin, le dernier point, c'est le tagging numérique, donc ce qu'on appelle l'XBRL. C'est-à-dire que là, c'est en pleine mise en place, donc je pense que d'ici à 2028, vous n'allez pas forcément avoir énormément d'informations, même si les entreprises s'y sont déjà mises. Mais le tagging digital de l'information extra-financière va permettre demain, dans une plateforme qui s'appelle l'ESAP, de pouvoir rapidement comparer de la donnée sur la base d'un point de données qui est le même pour toute entreprise et d'avoir cette qualité de comparabilité extrêmement rapide via une plateforme centralisée. Donc c'est un énorme effort que les entreprises, mais aussi les pouvoirs publics vont devoir porter sur les 2-3 prochaines années d'organisation de la donnée extra-financière, de mise en place des processus, mais qui, dans le long terme, a vraiment vocation à servir l'harmonisation, la transparence et la comparabilité. Je prends encore un pas de recul, parce qu'il faut se rappeler que la CSRD, en fait, s'insère dans le Green Deal de l'Union européenne, avec d'autres textes fondamentaux qui vont être la taxonomie et la SFRD. La CSRD, c'est vraiment un peu, je dirais, le pilier fondamental de ces réglementations parce qu'elle nourrit toutes les données que vous allez vouloir partager ou collecter, que vous soyez investisseur ou entreprise, autour de la donnée extra-financière. Donc, pour ceux qui ont déjà regardé le fichier Excel, typiquement, vous avez tout de suite les points de données qui sont labellisés et vous permettent de savoir si la formation que là vous allez publier ou que vous êtes demandé de publier va servir également à un rapport SFRD ou à un sujet de taxonomie verte pour le moment, peut-être sociale demain. Voilà sur cette slide. Sur la prochaine slide, donc le prochain point était plutôt un rappel contextuel de là où on en est aujourd'hui. Alors c'est assez intéressant parce qu'on est sur une période un petit peu autour de la CSRD, mais sur la réglementation européenne de durabilité assez particulière. Je pense que vous avez tous vu qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la CSRD, que c'est un enjeu clé de perte de continuité des entreprises, parce qu'effectivement on est sur des périodes où beaucoup de resserres sont mis sur de la conformité plutôt sur de l'action. C'est extrêmement compliqué parce qu'on s'en mêle les pinceaux entre SFDR, taxonomie, CSRD, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on s'organise sur ces sujets-là. Et c'est un gros fardeau administratif parce que du coup, ça veut dire qu'on doit y associer un CAC, qu'on doit y associer beaucoup de départements en interne qui ont peut-être d'autres priorités, bien sûr. Mais voilà, c'est lourd, c'est complexe, ça prend du temps. D'un autre côté, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, le point de vue est principalement porté par les pouvoirs publics et par quelques entreprises, mais d'un autre sens, la société civile, mais aussi beaucoup d'entreprises, grandes, moyennes ou petites, en fait, voient un vrai intérêt à ce type de démarche, qui leur permettent, pour celles qui veulent travailler ici, mais ne sont pas structurées, d'utiliser l'angle de conformité comme un levier de travail hyper intéressant. On n'a pas le choix, on travaille dessus aujourd'hui et on veut le faire. Donc, c'est un soutien des départements de durabilité, l'angle de conformité, parce que ça les oblige et ça oblige à impliquer d'autres départements qui, sinon, ne seraient pas forcément investis dans ces démarches. Les évolutions entre la DPEF, typiquement, et la CSRD sont logiques. Donc, je vous en ai parlé juste avant. La comparabilité, l'harmonisation des données, le fait que ce soit plus directif, ça arrive après un moment où déjà on était sur la DPEF qui laissait beaucoup plus de flexibilité aux entreprises, mais du coup chacun en faisait à sa sauce. Donc là, en fait, une première base de réflexion a été faite, on arrive à passer à la suite logique, celle d'après. Et le dernier point sur lequel on voulait insister, c'était que finalement, l'ensemble des écosystèmes s'étaient mobilisés. Et quand je parle d'écosystème, bah, typiquement, le portail RSE des pouvoirs publics s'est mis en place. On a une version bêta, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est très intéressante, qui accompagne un petit peu pédagogiquement les entreprises à se positionner sur la CSRD. On va avoir la société civile qui, de plus en plus, en fait, notamment les associations, l'ONG, qui souhaitent être intégrées dans ces débats, notamment, on va le voir un petit peu en plus, mais d'un point de vue impact, qui souhaitent faire partie de l'engagement de parties prenantes qui est demandé par la double matérialité et qui sont plus ouvertes au dialogue qu'elles ne l'étaient autrefois. Et on a des entreprises qui font des découvertes au travers des exercices de complémentarité, qu'elles se rendent compte qu'il y a des nouveaux sujets qui arrivent sur le terrain. Je pense notamment à la biodiversité, qui est un petit peu le gros sujet ces temps-ci après le climat, et qui pose de nouvelles questions. Donc on se challenge, on cherche, mais c'est plutôt dans une logique de contribution positive, de réfléchir de manière collective. Donc nous, on y voit plutôt des bénéfices, même si on sait que sur le moyen-long terme, même si on sait que sur le court terme, c'est assez lourd et c'est assez complexe et ça demande pas mal de temps et de ressources. Voilà sur cette partie contextuelle. Alors nous, ce que je vous propose là, c'est de rapidement engrainer sur nous notre retour d'expérience. Donc SAPA, nous, en tant que cabinet de conseil, on a eu l'opportunité de travailler avec une petite dizaine d'entreprises autour de la CSRD, sur notamment cette année, que ce soit sur de la double matérialité ou sur de l'accompagnement plus global sur la CSRD. Et on souhaitait partager avec vous quelques-uns des apprentissages qu'on avait eus, qui peut-être, je l'espère, vous parleront. Le premier, c'était, on travaillait, alors je ne vais pas évidemment citer les clients, mais on a travaillé avec un acteur industriel fortement implanté en France, avec une activité très concentrée sur ses opérations directes, avec deux tailles relativement humaines, mais par rapport à ce point chaîne de valeur, qui n'arrivait pas à se positionner, enfin, sur lequel c'est très complexe d'avoir un petit peu une vision macro des enjeux de durabilité sur l'ensemble de son secteur. Et ça suscite énormément d'incompréhension et ça nécessite du coup beaucoup de formation, de sensibilisation en interne, de création d'alignement, typiquement pour convaincre de l'intérêt de la démarche de la double matérialité. Je prends un exemple tout simple. C'est un acteur qui est extrêmement investi parce qu'il y a des vraies opportunités économiques autour de l'économie circulaire. Le sujet de biodiversité est un sujet extrêmement important pour eux, ou le sujet droits humains est extrêmement important pour eux sur l'amont, mais qui est très compliqué pour eux d'appréhender parce que pour une entreprise de taille moyenne, en fait, en termes de levier d'influence, ils sont pas en capacité de faire grand-chose. Donc, méthodologiquement, l'exercice de double matérialité a été très compliqué à mettre en place dans le sens où il a fallu créer de l'alignement en interne. Ce qui veut dire pour nous, mais même pour eux, il a fallu, et c'était nécessaire, et ça a porté ses fruits, de créer de la sensibilisation sur l'intention derrière le texte de la CSRD, qu'est-ce qu'on recherche? On ne recherche pas à vous imposer de devoir parler de plein de sujets qui ne sont pas forcément pertinents pour vous, mais on vous demande de comprendre votre secteur, c'est-à-dire de comprendre les réalités de votre secteur, comprendre en fait, vous achetez des minéraux critiques, ça fait partie de votre business model, mais est-ce que vous avez de la visibilité sur ce qui se passe dans l'extraction de minéraux critiques ou pas. Donc voilà, un exercice de transparence, de vigilance globale, qui n'est pas évident à appréhender, notamment lorsqu'on parle à des métiers extrêmement opérationnels, type, je ne sais pas, qualité ou achat, etc., qui sont dans leur processus ISO, certification, où là, on leur demande pas juste de justifier une certification, mais juste avant même d'aller regarder ce qu'ils font, de comprendre la réalité d'un secteur. Donc, voilà, la levée de résistance, c'était un vrai sujet qui nous a beaucoup animés, qui est extrêmement intéressant. Le deuxième point, réfléchir au-delà du climat, c'est la nouveauté par rapport aux ESRS, qui à la fois ressortent souvent comme pour des grands groupes comme des standards relativement banals, mais qui finalement, pour des boîtes qui se sont dans un premier temps beaucoup investies sur la TCFD, pardon, le CDP, le reporting, le bilan carbone, qui est beaucoup plus organisé en termes de statistiques par rapport à d'autres sujets que sont la biodiversité notamment, ou la pollution, mais qui est extrêmement réglementée à niveau national, l'économie circulaire, la gestion des déchets, elles se sont rendues compte que leur gouvernance de durabilité ou leur gouvernance environnementale, c'était principalement faite sur un sujet plutôt qu'un autre. Et nous, ce qu'on voit dans la réalité des faits, c'est que le climat, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont pris un engagement net zéro ou en tout cas ont un programme de réduction d'émissions de carbone. Et la CSRD, elle arrive en disant c'est super. De toute façon, le SRS E1 est quasi obligatoire ou en tout cas doit être justifié s'il n'est pas sélectionné. Mais quid des autres sujets? Quid notamment de la biodiversité? Vous avez la TNFD qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui mal, enfin, heureusement et malheureusement, du coup, propose un nouveau système de reporting. C'est des sujets aussi qui sont moins tangibles et du coup, qu'il faut aller creuser, où il faut déjà réussir de comprendre, cartographier potentiellement nos impacts et nos risques autour de ces problématiques-là. C'est challenging et ça, à certaines entreprises qui se pensaient potentiellement assez matures et assez ambitieux sur des sujets environnementaux, se rendre compte qu'il y a encore un énorme chemin à parcourir. Et dans cet exercice de transparence de la CSRD, ben, ça veut dire que potentiellement, ou dans le premier rapport, on n'a rien à dire. Ce qui pose des questions en interne. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'organise dans l'urgence? Est-ce qu'on se dit qu'il faut là être proactif, mais plutôt prendre les leviers et étapes une par une? Donc, un autre point de réflexion qui a été émis. La double matérialité, mon troisième point, c'est que c'est un exercice de conformité et du coup, d'une manière ou d'une autre, on va vouloir présenter toute la gouvernance autour des sujets de durabilité d'une entreprise et qui va évidemment faire intervenir à un moment donné un comité de direction, un COMEX, qui n'est pas forcément mobilisé dans un premier temps et là qui va devoir se positionner sur certains sujets. Typiquement, dans la CSRD, on va vous demander de publier l'information sur des pratiques de rémunération autour d'initiatives de durabilité, etc., etc. Donc voilà, ça pose un premier inconfort parfois si le top management n'est pas initialement mobilisé, mais plutôt dans une logique positive sur le long terme. Et enfin, mon dernier point, c'est la gouvernance ESG homogène. Ce qui se passe souvent, c'est que notamment, je parle là pour plutôt des entreprises qui se sont senties matérielles sur l'ensemble des ESRS, elles se sont potentiellement rendues compte de ne pas avoir le même niveau de gouvernance d'un sujet à un autre. Les sujets ESRS S1, RH, c'est organisé. Donc bon, on reprend ce qu'il y a dans le bilan, on reprend ce qu'il y a dans les processus internes. Le climat, ben on a tous les sujets SBTI, on a le reporting, le bilan carbone, on a la TCFD. Donc bon, on s'aligne à des critères qui existent déjà. Si je prends le SRS S3, Affected Communities, ou le sujet G1, sur la gouvernance, c'est des sujets qui sont parfois nouveaux, qui ne semblaient pas forcément pertinents dans un premier temps, mais au regard d'un exercice de durabilité, on se rend compte qu'en fait, c'est un vrai sujet et qu'on se pensait mature sur la durabilité, mais finalement, sur tous ces sujets sociaux, notamment au-delà de nos collaborateurs et peut-être du sujet achat responsable, ben on a raté tout un pan de parties prenantes qu'on doit intégrer. Je pense notamment à on a tendance à souvent se focaliser sur des activités pétrochimiques ou de l'extraction. C'est aussi le cas dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est aussi le cas dans des activités tertiaires ou de la gestion des déchets. Donc voilà, comment est-ce qu'on intègre ça? Qui va s'en occuper? C'est peut-être, voilà, c'est des nouvelles réflexions plutôt de gouvernance à mettre en place. Et qu'est-ce qu'on fait sur ces sujets-là? Est-ce qu'on se répond dans l'urgence en disant, bah, il faut qu'on ait une politique autour du ESRS S3, donc on va créer ça, mais ça serait un peu creux. On se dit, bon, bah, c'est l'occasion de se poser un petit peu des questions sur la manière dont on est organisé autour du sujet de la durabilité et potentiellement rechallenger ce qui a été mis en place dans une logique d'harmonisation, parce que le SRS va demander le même niveau d'information, donc gouvernance, politique, plan d'action, IROs et data points sur l'ensemble des ESRS, qu'il faut savoir justifier de la manière dont vous êtes bien organisé. Donc ça pose des questions un petit peu de feuille de route sur les prochaines années qui sont assez intéressantes, mais plutôt nous, évidemment, c'est pris comme d'abord comme une mauvaise surprise, mais finalement qui c'est l'occasion aussi de se porter des réflexions un petit peu plus larges sur la manière dont on veut réfléchir notre business model. Ce qui est vraiment l'intention derrière le texte de la CSRD lorsqu'on a eu l'occasion d'aller à Bruxelles, de comprendre les textes pendant les consultations publiques. Je laisse la parole à Marie pour présenter un petit peu son retour côté Forum pour l'investissement responsable.
Merci Sona et merci pour l'invitation. Donc très rapidement, en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas le Forum pour l'investissement responsable, qui est une association loi 1901. On existe depuis 2001. On a pour particularité d'être une association multipartie prenante, donc avec cinq grands collèges que sont les investisseurs institutionnels, les sociétés de gestion, le collège académique conseil, le collège société civile, donc avec des syndicats, des ONG, et puis un collège de personnalités qualifiées. Peut-être si vous pouvez passer à la slide suivante. plutôt, voilà, c'est plus ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme, quelles sont les activités du Forum pour l'investissement responsable? On est organisé autour de trois grandes activités qui sont les activités de lien avec le monde académique, donc qui se concrétisent par notre commission recherche, les activités plutôt adressées au grand public. Donc avec une commission également du même nom, et les activités de dialogue et d'engagement, donc dans lesquelles s'inscrivent les travaux dont je vais vous parler un petit peu plus longuement. Voilà, cette commission, c'est toutes ces activités voilà, sont déclinées en plusieurs choses. Et voilà, et la commission dialogue et engagement, elle a elle-même plusieurs activités. C'est une activité, un pilier important du FIR. Donc, si on passe à la slide suivante, pour vous parler un petit peu du lien avec le sujet du jour qui nous intéresse, donc la double matérialité, on a parmi nos activités, les activités de la commission dialogue et engagement, une activité de campagne de questions écrites au CAC 40. Cette campagne, elle existe depuis 2020. Et cette année, une des particularités de notre campagne de questions écrites, c'était de poser la question aux entreprises de la double matérialité, enfin, de la matérialité de nos questions du FIR posées pour elles, selon leur activité et selon un axe double matérialité, donc dans une logique voilà, de structuration par rapport à la CSRD plus largement. Juste pour préciser que cette campagne de questions écrites, donc, elle contient 10 questions sur des différents sujets ESG. Trois questions sur les sujets environnementaux, quatre sur les sujets sociaux et trois de gouvernance. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a sept entreprises sur les 40 que contient le CAC 40 qui ont répondu à notre question de l'évaluation de la matérialité de nos questions. On avait construit en collaboration avec le cabinet Etifinance une matrice très simple avec trois niveaux, faible, moyen et fort, et deux entrées, donc matérialité d'impact et matérialité financière. Donc on a sept entreprises de secteurs différents qui nous ont répondu. Rapidement, dans ce qu'on a pu analyser dans les réponses qu'on a reçues, donc en termes de sujets qui sont ressortis avec une matérialité forte, on a donc sans surprise les objectifs de décarbonation, la question relative à ce sujet-là, qui ressort 6 fois sur 7, donc dans 6 réponses sur 7 entreprises. Et ensuite, on a avec une occurrence de 4 fois les questions liées à l'économie circulaire. Et un peu plus surprenant peut-être, la responsabilité fiscale. Donc pour trois entreprises sur sept, la responsabilité fiscale, ça ressort comme un sujet très matériel, sujet qui n'est pas tellement traité directement d'ailleurs par les ESRS. Voilà, en tout cas, ça ne ressort pas comme un sujet traité comme tel directement. Ensuite, on a aussi en parallèle de l'auto-évaluation qu'on a demandé aux entreprises, on a réalisé un petit exercice donc, sur la base de la méthodologie Etifinance toujours, d'évaluation de la matérialité de nos questions pour les 40 entreprises. Et on a pu voir globalement un alignement entre l'évaluation de la matérialité par le FIR sur la base de la méthodologie de finance et l'auto-évaluation des sept entreprises que je mentionnais plus tôt. Mais on a quand même constaté quelques divergences qui sont peut-être intéressantes à remonter. Par exemple, pour l'entreprise Dassault Systèmes qui a fait ce travail d'auto-évaluation de la matérialité, Côté FIR et Etifinance, on a évalué une maturité à 1 sur la question de l'économie circulaire, alors que l'entreprise évalue ce niveau à 3, donc au maximum. Et à l'inverse, pour l'entreprise Thales, on estime à une maturité, enfin l'entreprise a estimé une maturité du sujet salaire décent à 1, tandis que Etifinance et le FIR l'évaluent à 3 pour le secteur de l'industrie. Puisque effectivement, on a appliqué une évaluation, je l'ai pas dit, mais on a appliqué une approche sectorielle pour évaluer la matérialité. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a quand même quelques divergences possibles sur ce sujet-là, sur les estimations de matérialité, qui seront intéressants de constater. Voilà, dans les premiers rapports qui sortiront et qui seront étudiés en 2025, voilà, en faisant par exemple des comparaisons sectorielles. Et quant au FIR, on va aussi, on a prévu d'aller dialoguer avec les entreprises en cas de forte divergence entre ce qu'on a pu évaluer et ce que les entreprises évaluent de leur côté en termes de matérialité. Voilà, rapidement, on a aussi regardé une étude du cabinet Ici et Demain qui évalue aussi la matérialité pour 10 entreprises, enfin, qui a regardé le CAC 40 et en mai 2024, elle a perçu que 10 entreprises avaient déjà publié des matrices de double matérialité. Donc, ce qui veut dire que toutes les autres étaient en cours d'exercice. Sur 10 entreprises, donc c'est un échantillon assez petit, on ne peut pas non plus faire de généralité, enfin tirer de grandes généralités, mais ce qu'on peut déjà constater, c'est qu'il y a un nombre de sujets matériels assez variable. Donc ça va de 3 à 16 sujets matériels voilà, qui sont remontés. Là, parmi les sujets les plus importants qui ressortent principalement, c'est les sujets sociaux et sociétaux, et suivis par les sujets environnementaux, puis de gouvernance. Un élément qu'on peut observer, assez étonnant, mais qui sera peut-être confirmé ou infirmé en étudiant un échantillon plus grand, c'est que la biodiversité, le sujet de la biodiversité et de l'eau, apparaissent respectivement que 2 et 0 fois pour l'eau dans les sujets les plus matériels. Donc bah, c'est assez enfin, c'est un point qu'on peut qualifier de surprenant. Et après, on a simplement un petit éclairage sur une entreprise qui montre que à quel point le sujet est assez complexe au premier abord. Voilà, en lisant le rapport. Le document d'enregistrement universel de l'entreprise Orange, on voit bien qu'il y a une manière d'évaluer ce niveau de double matérialité qui est assez complexe. L'entreprise cite plusieurs sources, une liste de sources assez variées pour évaluer son niveau de matérialité et valoriser aussi enfin, côté côté les différents sujets. Voilà pour ce qui est un petit peu du constat retour d'expérience sur les entreprises. On voit que l'entreprise Orange donc a finalement relevé 12 sujets, 12 enjeux matériels qui ont un score supérieur à 3 sur 4. Et ceux qui sont très proches de la matérialité d'impact financière maximale, ainsi que 10 enjeux proches d'une matérialité d'impact ou financière. Ce qu'on a pu... Donc ça, c'est pour l'entreprise Orange. Et ce qu'on peut remarquer pour d'autres entreprises, c'est qu'on a, comme je le disais, un nombre d'enjeux matériels qui va varier et une manière d'évaluer... le niveau de matérialité assez variable, même si on retrouve quand même toujours la même logique dans ce qu'on a pu voir, il y a quand même des niveaux assez variables qui sont liés à la flexibilité que les entreprises ont, qui est laissée aux entreprises sur la cotation et sur le nombre d'enjeux matériels à retenir. Voilà. Ensuite, pour le sujet des obstacles et des leviers stratégiques, donc c'est la slide suivante. Donc, ça a déjà été soulevé par Sona. Je ne vais pas y revenir trop longtemps, mais quelques obstacles qui sont souvent remontés, c'est bah, ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a quand même encore une flexibilité assez grande qui est laissée aux entreprises, à la fois sur le nombre d'enjeux matériels qui peuvent être remontés et les seuils, les cotations de matérialité. Donc, d'un point de vue investisseur, ça rend l'évaluation un peu plus compliquée, je pense. Voilà, la comparaison entre ces différents niveaux assez compliquée. Donc, a priori, la publication de normes sectorielles qui est en cours, mais qui n'est prévue que pour 2026, facilitera certainement le travail de comparaison et de standardisation. On en a parlé, la complexité de la cotation, les ressources qui sont nécessaires. Donc, le cabinet Ici et Demain avait publié une estimation de budget pour les entreprises qui va de 320 000 euros à 1 million d'euros pour mettre en œuvre la CSRD. Donc, on voit bien que c'est des budgets assez conséquents et encore, ce n'est pas les budgets les plus importants que j'ai pu entendre. Donc voilà, il y a un enjeu de ressources, évidemment. Et puis, un petit point sur l'audit bon, qui est quand même, enfin, on peut quand même noter que c'est un point positif qu'il y ait un audit et qu'il y ait voilà, une assurance raisonnable qui soit demandée. Mais on a un audit sur le process et non sur la pertinence des enjeux qui ont été retenus et puis de l'implémentation de la CSRD en tant que telle. Sur les bénéfices, puisque tout de même, il y en a beaucoup, malgré toutes les critiques que ce texte peut susciter. Donc, Sona aussi, on a relevé plusieurs, mais c'est un texte qui permet de prioriser, de mettre à jour sa feuille de route, de structurer. C'est un texte qui permet d'embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise et tous les collaborateurs et en particulier la gouvernance. Donc, à la fois, ça fédère et ça augmente la dimension stratégique de la RSE. Par exemple, on peut relever que au niveau de ce qui est demandé au niveau gouvernance, c'est d'expliquer le lien entre les compétences les compétences du board, son expertise et les principaux IRO matériels, de faire un lien entre les principaux enjeux et la supervision par les structures de gouvernance ou les comités spécialisés. On voit bien que vraiment, au niveau de la gouvernance, maintenant, voilà, une transparence est demandée sur la manière dont elle s'implique, également sur les niveaux de rémunération, enfin sur le lien entre la rémunération et l'intégration des critères de durabilité. Et dans les autres points positifs, plus d'un point de vue peut-être un peu plus investisseur, c'est que on renforce donc avec ce texte le lien entre RSE et financier, puisque les entreprises donnent aux investisseurs ou financeurs une transparence accrue sur leur gestion des risques et leurs opportunités en termes d'investissement et de développement. Le fait de devoir vraiment reporter sur cette matérialité financière, c'est voilà, c'est une avancée qui sera, je l'espère, valorisé par les investisseurs. Et le dernier point, donc, c'est la standardisation de l'information aussi, qui pour un investisseur est un point positif pour comparer voilà, les entreprises de son univers d'investissement. Et on peut, juste pour finir, relever les différentes positions qu'ont pris des organisations telles que Eurosif, mais aussi les Principles for Responsible Investment ou encore les FAMA, les différentes positions pour garder une exigence importante de ce texte. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin, bien sûr.
Merci beaucoup, Marie. J'ai oublié, on avait de quelqu'un de la Banque de Conseil du Développement de l'Europe qui devait se joindre, mais qui n'a pas pu se joindre, donc elle ne sera pas là aujourd'hui, mais à une prochaine occasion, on essaiera de l'avoir en webinaire. Du coup, nous, on voulait quand même continuer sur cette logique de retour d'expérience en prenant méthodologiquement les étapes de la double matérialité pour voir si éventuellement vous retrouvez un petit peu dans les enjeux qu'on a pu identifier dans chacune des étapes de la double matérialité. Donc, ce qu'on vous a inséré, ce que vous allez bientôt voir dans la prochaine slide, c'est les étapes clés d'une double matérialité qu'on peut retrouver, qui sont conformes à la CSRD, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est que je reprenne chacune des étapes et que je vous présente un petit peu les défis auxquels on a pu faire face sur chacun de ces sujets. Alors, je parle de défis, mais c'est en fait comment aborder le sujet selon le niveau de maturité d'une entreprise, selon sa taille par rapport à tout ce sujet qu'on appelle de granularité quand c'est des multinationales qui sont présentes dans différents points dans le monde avec différentes activités, etc. Donc, nous, que ça pas au sein de notre activité de conseil, on a pu faire face à ce type de défis. Et le premier message que j'aimerais faire passer avant même de rentrer dans le détail, c'est que même si l'attendu réglementaire, le papier sur lequel on doit se baser pour faire la double matérialité, la manière dont on va procéder pour la faire n'est pas comparable d'une entreprise à une autre, parce qu'il y a un vrai sujet de bien appréhender le sujet de la matérialité, comment ça sert et comment s'en servir dans le cadre de notre activité. Parce que, comme Marie l'expliquait, in fine, dans le meilleur des mondes, on pourra s'utiliser l'information d'un rapport CSRD pour l'analyser de la même manière qu'une information financière. Je pense que là, on est sur une phase un petit peu inconfortable avec, j'ai envie de dire, le cul entre deux chaises où il faut qu'on reporte, mais à terme, l'objectif de cette information, de tout ce travail que vous allez mener ou que vos équipes elles vont mener, c'est de pouvoir voir dans un second temps comment en fait cette information qualitative et quantitative peut également servir à la valorisation de mon entreprise. Donc, je reprends la première étape, la compréhension du modèle d'affaires et du contexte de l'organisation. Dans la double matérialité telle que demandée par la loi, la double matérialité et l'identification des IRO, ce que j'appelle les impacts, les risques et les opportunités, doit se faire en tenant compte du modèle d'affaires d'une entreprise, de sa chaîne de valeur et toutes les relations partenariales qu'elle peut avoir avec des parties prenantes. Ce qui finalement est extrêmement complexe à mettre en place et qui demande énormément d'énergie. Cette première étape de cartographie peut déjà être un projet en lui-même, mais qui peut ne pas juste servir à la double matérialité, mais typiquement, c'est des sujets quand vous allez pour les entreprises qui vont travailler sur le devoir de vigilance ou demain la CS3D, elles vont forcément être confrontées à ce type de problématique lorsqu'elles vont devoir comprendre comment elles agissent sur des écosystèmes. Donc, sur ce premier pan, la complexité d'une entreprise a été extrêmement difficile. Et ce n'est pas forcément une question de taille ou de géographie d'implantation, mais c'est aussi une question de secteur. C'est-à-dire qu'on est des fois, parfois, on intervient sur des secteurs extrêmement fragmentés avec peu de transparence. Donc, on sait qu'on achète de la matière première ou des composantes industrielles. Mais on connaît le rang 1 à la limite, mais rang 2, rang 3, rang 4 jusqu'à rang 6, ben on n'a pas forcément cette visibilité-là. Donc comment est-ce qu'on adresse ce sujet-là? Ben nous, dans ce cas-là, ce qu'on préconise, c'est de se dire, bon, ben déjà, dans quelle entreprise je m'insère, dans quel secteur? Regardez quelles sont les entreprises concurrentes, en fait, comment elles réfléchissent, soit dans une logique où on échange directement avec elles, soit on benchmark, on essaie de se positionner par rapport à eux, quels sont nos caractères différenciants. Et par rapport à ce sujet typiquement de chaîne de valeur, par exemple, je pense que là, ce qui est vraiment important, c'est de prioriser. Quelles sont les géographies prioritaires dans lesquelles je travaille ou dans lesquelles je m'insère? Où est-ce que j'achète une grosse partie de mes matières premières ou de mes produits? Donc, on tente de cartographier à la marge et on tente de prioriser. Et fort de ça, on essaie de se dire, bon, bah, du coup, ça veut dire que dans in fine, dans l'identification de mes IRO que je vais faire, je sais que je vais me focaliser mes énergies sur ces sujets-là. Il y a des entreprises avec lesquelles le travail de double matérialité a vraiment été pris comme un exercice extrêmement stratégique et on nous a demandé de faire limite des doubles matérialités par filiale, je dirais presque, parce qu'on savait que par géographie, les enjeux n'allaient vraiment pas être les mêmes dans des contextes extrêmement réglementés versus des contextes pas du tout réglementés ou dans des contextes avec des géographies sur des territoires avec des conflits internes qu'il fallait gérer et qui allait avoir influé directement sur le business model. Donc, selon là où vous en êtes, quand, si vous êtes en train de faire votre première double matérialité à niveau groupe, en sachant pertinemment que vous allez faire une double matérialité qui peut-être est très macro, mais en fait, c'est pas grave. Ça fait aussi partie de la réflexion que vous allez poser. Une double matérialité, ça se met à jour, ça se renouvelle à environ tous les 3 à 5 ans. Donc, entre-temps, vous allez pouvoir mûrir sur ces sujets. Nous, ce qu'on préconise, c'est de cartographier par un biais de priorisation. Donc, typiquement, quand on a fait cette première étape, nous, que ça part, on est allé voir les départements achats. On est allé voir les départements qualité. On leur a dit, bah, selon vous, qu'est-ce que vous préconisez si on devait. Si on devait prioriser, pour vous, qu'est-ce que ça devrait être? Est-ce que parce que c'est un marché dans lequel, un marché prospectif, est-ce que c'est un marché sur lequel vous êtes? Est-ce que c'est une région dans laquelle vous allez acheter beaucoup de choses? Pour vous, là, déjà, juste en parlant comme ça, plutôt de votre modèle d'affaires, sans forcément penser à la CSRD, quelles sont vos priorités là? Donc, on est allé voir différents départements internes pour leur poser cette question-là, pour essayer de comprendre leur vision des choses et ensuite valider un petit peu cette compréhension schématique avec des membres du comité de direction. Au travers d'ateliers, etc. Donc, ce premier déjà challenge, comprendre en fait dans quelle géographie je m'insère, qu'est-ce que je priorise, dans quel secteur j'appartiens, c'est le premier point, mais qui finalement, si on ne fait pas bien ce premier exercice un petit peu de compréhension de périmètre, peut bloquer tout le reste d'un projet de double matérialité. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est au contraire quelque chose sur lequel il faut passer du temps, parce qu'en fonction de ça, ça va vraiment avoir une influence directe sur le reste. Les deuxième et troisième étapes que nous, on met entre guillemets ensemble, c'est pour ça que vous voyez des pointillés, c'est l'identification des enjeux et des IRO associés. Donc, pour rappel, dans la double matérialité, vous avez ce qu'on appelle les 12 standards, les ESRS, qui vous donnent une première niveau, avec sa granularité, des topics, sous-topics, sous-sous-topics, et qui vous donnent un premier périmètre d'analyse, de compréhension, comment est-ce que je m'insère ou est-ce que je m'identifie à ces enjeux-là de durabilité? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, c'est important pour moi d'un point de vue d'impact, c'est-à-dire inside out, je peux avoir un impact positif ou négatif, même si je priorise le négatif sur ces sujets-là, mais aussi d'un point de vue risque. Est-ce que typiquement le sujet de la gestion des déchets, de l'économie circulaire, en fait, il y a une vraie valeur ajoutée pour moi auquel il y a une opportunité de réfléchir à un nouveau produit, à un nouveau processus de production qui peut avoir un vrai, une, qui peut être représenté comme une vraie opportunité économique pour moi. On peut le voir de cette manière-là que nous, on a tendance à appeler top-down, c'est-à-dire je reprends la granularité des ESRS, je vois si je m'identifie et je vois s'il y a d'autres sujets, typiquement environnementaux, sociaux qui ne sont pas dans les ESRS, ce qu'on va appeler des entity specific disclosures, qui peuvent être intéressants pour moi, ou on prend la chose plutôt dans une logique bottom-up, c'est-à-dire je me dis, bon, bah, plutôt que de relancer le sujet, je reprends justement mon modèle d'affaires, mon business, et je me dis, bon, bah, quels sont les sujets qui pour moi sont vraiment importants. C'est-à-dire quels sont là, est-ce que je sais déjà au travers d'une veille médiatique, au travers des échanges, des dialogues que je peux avoir avec la société civile, les ONG sur mon territoire, les collectivités publiques, est-ce qu'on m'attend sur certains sujets, plutôt du coup dans une logique impact, typiquement, je sais pas, le sujet nuisance sonore ou le sujet pollution de l'air au travers de mes flux logistiques ou tout simplement pollution lumineuse ou emploi ou création d'emploi et opportunités d'emploi sur mon territoire. Est-ce que je suis attendue sur ces sujets-là? Plutôt côté impact, j'ai envie de dire, impact positif ou négatif. D'un autre côté, est-ce que moi, et ça, alors, c'est le cas dans certaines entreprises qui sont assez matures sur les sujets ESG, mais parfois on a des bonnes surprises. Est-ce que dans mes analyses de risque, je tiens en compte directement ou indirectement de ces sujets de durabilité? Si vous êtes soumis à l'ISO, par exemple, ça peut être un sujet. Vous pouvez retrouver dans vos cartographies de risque, en fait, des sujets de durabilité qui sont pris sous le prisme ISO, mais qui peuvent tout à fait servir dans des exercices de double matérialité. Et on prend, en fait, on reprend ses impacts et ses risques. Et ensuite, on les recatégorise par rapport soit à l'arborescence ESRS, soit vous ne vous identifiez pas dans les ESRS. Et c'est pas du tout grave parce qu'en fait, les ESRS sont là plutôt pour vous guider sur les problématiques qui peuvent vous animer et vous catégoriser comme ça. C'est quand même important de faire cette catégorisation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va servir à toute la construction et le sommaire de votre rapport, de ce qu'on appelle l'état de durabilité, le rapport CSRD, qu'il soit intégré ou non intégré, pour la suite de la production du rapport. Donc là, nous, en fonction de ce qui est disponible au sein de l'entreprise, donc outils de risque, peut-être qu'il y a des cartographies de devoirs de vigilance qui ont été faites, etc., on collecte tous ces éléments-là, on essaie de comprendre quelle est la manière d'aborder. On ne va pas vous mentir, c'est jamais l'un ou l'autre, c'est généralement une symbiose des deux, c'est ce qui marche le plus. Là où on essaie de faire très attention, et là je pense que c'est un apprentissage que nous aussi on a fait au travers de nos exercices de double matérialité, c'est évidemment essentiel d'être exhaustif, mais alors avoir une liste, je sais pas, voire une centaine de IRO, c'est pas forcément utile, c'est pas forcément pertinent, parce qu'il y a toute une logique de priorisation des IRO qui doit être faite. Donc ne soyez pas surpris si vous voyez des gros groupes qui vont seulement communiquer sur une dizaine de IRO matériels. Méthodologiquement, ça peut avoir son sens si l'exercice a été bien fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sous-IRO, mais qui sont plutôt utilisés à vocation interne. Le troisième point sur l'évaluation de matérialité, c'est un exercice qui est extrêmement subjectif. Marie, elle en a parlé. Nous, méthodologiquement, ce que la CSRD demande, c'est qu'on utilise des méthodologies qui existent déjà, soit en interne, ce qui est pour l'évaluation des risques en tenant compte des critères de probabilité et de magnitude, soit en externe, notamment pour la méthodologie de matérialité d'impact. On va vous demander d'utiliser les UN Guiding Principles on Business and Human Rights, donc ce qui va être l'échelle, le scale, le scope, le caractère d'irrémédiabilité et le likelihood of occurrence, la probabilité. La définition des seuils est subjective parce qu'en fait, c'est à vous de voir à quel moment vous considérez qu'un impact est matériel. Donc, c'est tout un débat là qu'il faut faire entre départements pour voir ce que vous allez vous, ce, à partir de quel moment un impact, un risque ou une opportunité va devenir matériel et du coup, in fine, que vous allez devoir inclure dans votre rapport de durabilité. Je passe à la slide suivante sur le périmètre de reporting CSRD, peut-être pour aussi laisser le temps aux questions s'il y en a. Ce qu'on a reflété là, c'est une fois que vous avez compris les résultats de double matérialité, vous avez compris ce que vous alliez devoir intégrer dans votre reporting CSRD. Voilà, entre guillemets, les quatre dimensions de reporting qui vont être attendues dans un état de durabilité. Dans un premier temps, la gouvernance et l'organisation. Et ça, c'est un sujet, ça, parce que c'est une vraie question qui est posée. Si c'est finalement la même organisation pour tous les sujets de durabilité, est-ce qu'il faut que ce soit redondant ou est-ce qu'on peut le chapeauter en début de rapport? C'est tout à fait possible de le chapeauter. La question, elle se pose vraiment si vous avez des gouvernances et des organisations, une politique dédiée sur chacun des sujets, une personne dédiée sur chacun des sujets. Donc là, ça va vraiment dépendre de la nature d'organisation. On va aussi vous attendre sur l'intégration des enjeux de durabilité sur votre modèle d'affaires et sur votre stratégie de long cours. Pas seulement sur votre stratégie ESG, alors ça l'est, mais comment en fait vous intégrez ces IROs et notamment ces RO, ces risques et opportunités, dans des logiques business. Enfin, les IRO matériels et en découlent les points de données qui sont sélectionnés sur la base des résultats de la double matérialité. Et je rebondis par rapport à ce sujet de normes sectorielles, où typiquement, effectivement, là, on est sur une phase où les entreprises un petit peu tatillonnent et c'est très compliqué de se positionner parfois parce que tous les sujets sont hyper intéressants. Et du coup, bah, est-ce que je prends tout ou est-ce que j'arrive à faire une présélection? Ça va dépendre de comment en fait j'organise mes méthodologies de double matérialité. Les premières normes sectorielles qui vont sortir vont surtout être sur le oil and gas dans un premier temps. Vous avez certainement dû en entendre parler. Ou je vous prends un exemple très simple sur les activités d'extraction. On sait qu'il y a un gros sujet sur les droits humains qui va ressortir dans ces normes sectorielles, et il me semble qu'il y en a un autre sur le méthane et les déchets gaz propres à l'activité de pétrole. L'autre gros rapport sectoriel, c'est sur le secteur de la finance. Donc, comment est-ce que, dans des chaînes de valeur extrêmement fragmentées, extrêmement complexes, on arrive à rassembler et faire une double matérialité qui ait du sens et qui soit cohérente pour des acteurs financiers qui sont investis dans plein de types de secteurs et qui font face à plein de sujets de durabilité. Nous, ce qu'on vous préconise, c'est que vu qu'on est sur une période un petit peu charnière de se positionner sur certains sujets plutôt que d'autres en attendant d'avoir des normes sectorielles qui sentent et qui permettent de préciser certaines actions, c'est de travailler par plusieurs phases. On ne vous demande pas dès votre premier rapport CSRD de publier toute l'information. On vous demande, voilà, vous avez 3 à 5 ans, il y a un petit peu de leniency, alors je ne sais plus comment on dit, mais voilà, il y a une phase un petit peu d'adaptabilité où déjà on vous demande de vous concentrer sur ce qui est dans vos opérations directes, bien sûr. Et si vous n'avez pas tous les points donnés, ce n'est pas grave du tout. Tant que vous justifiez de manière transparente que vous êtes en train de travailler sur l'organisation et la publication de ces informations, c'est tout à fait possible. Donc nous, ce qu'on préconise quand on travaille justement plutôt sur la partie mise en place du reporting extra-financier au service de cet état de durabilité, c'est d'arriver déjà à faire le lien entre les points de données, les sujets qui vont aussi vraiment, qui font partie de votre stratégie ESG telle que vous l'avez déjà définie, pour prioriser si vous êtes dans une période où vous réfléchissez typiquement aux indicateurs de performance que vous allez vouloir partager dans le cadre de votre stratégie, combiner les deux. Donc, j'ai envie de voir une espèce de logique pyramidale où je vois dans un premier temps moins de points de 2D, mais extrêmement pertinents pour l'entreprise, qui combinent à la fois conformité CSRD et à la fois stratégie ESG, pour dans un deuxième temps peut-être y ajouter cette bannette points de données qui peuvent également vous servir par rapport à d'autres initiatives de reporting, GRESB, bilan carbone, CDP, TCFD, TNFD, EcoVadis. Deuxième temps, ok, on s'organise autour de ça pour pouvoir répondre aux attentes de nos parties prenantes. Et dans un troisième temps, ben là, on regarde un petit peu dans des logiques CSRD, quels sont les points de données sur lesquels on n'a pas encore eu l'occasion de travailler, mais qui n'ont peut-être pas été prioritaires dans les 2 premières années, pour concentrer nos efforts dessus. Notamment par rapport à cette question budgétaire que Marie a mentionnée, c'est des gros budgets. Je pense qu'il faut savoir se projeter dessus. Il faut aussi savoir prioriser les efforts dans un premier temps et ensuite voir d'année en année, en fonction de ce qui se fait en termes de bonnes pratiques, se projeter sur les points de données que vous allez vouloir partager. Je m'arrête là. Marie, si tu veux intervenir en clôture de ce webinaire, n'hésite pas. Si vous avez des questions ou des réponses auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et vous avez aussi normalement une petite enquête de satisfaction qui est ressortie auxquelles vous pouvez répondre. Donc Marie, je t'en prie.
Merci Sona. Écoute, je n'ai rien à ajouter, mais, si ce n'est de vous remercier. C'est très, très intéressant et je suis à disposition pour les questions s'il y en a.
Super. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui sont dans la salle? Bon, s'il n'y en a pas, n'hésitez pas à les rajouter dans le chat ou à nous écrire directement après ce webinaire. Ce sera avec plaisir qu'on prendra le temps de vous répondre. Peut-être que si jamais ça peut vous alimenter, on a rajouté une toute dernière slide. Ah, alors, il y a juste une question. À l'issue de vos missions d'accompagnement, comment positionnez-vous le travail sur les IRO par rapport à la démarche de management des risques, redondance complémentaire? Moi, je répondrais complémentaire parce qu'en fait, c'est l'occasion aussi de se positionner sur l'intégration de critères ESG dans des outils d'analyse de risque, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, même si ce qu'on voit, c'est que ça se renforce de plus en plus. C'est l'occasion d'utiliser l'outil d'engagement de parties prenantes et tous les outils de conformité réglementaire, les ISO, pour les intégrer de manière définitive et évaluer dans des outils d'analyse de risque. Donc, je dirais que c'est complémentaire. Peut-être juste faire de la toute dernière slide qui arrive juste après. Pour ceux qui sont intéressés et souhaitent avoir d'autres éléments autour de la CSRD et de la double matérialité, on a une newsletter où on parle assez régulièrement de la CSRD par rapport aux évolutions, mais surtout par rapport à ce qu'on vous partageait sur des retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous avais mis en première page, j'ai affiché quelques publications officielles autour de la CSRD. Vous avez les liens directs et les contenus sont gratuits. Donc n'hésitez pas à en profiter pour les utiliser. Et tous nos webinaires sont en replay sur notre site ou sur LinkedIn ou que ça passe. Si jamais vous souhaitez les revoir ou réutiliser des contenus, la présentation aussi sera partagée publiquement. Donc, prenez le temps de répondre à l'enquête de satisfaction. Un grand merci pour votre participation et n'hésitez pas à nous écrire directement mes coordonnées sur les dernières slides si vous avez des questions autour de la double matérialité. C'est avec plaisir qu'on prendra le temps de vous répondre. Merci.
Merci
Bonne fin de
beaucoup.
journée. Merci beaucoup, Marie.